Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 610 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au bar à vin, restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Le vin de Tahiti, oui, ça existe, on va en parler. Le château Clarisse à Bordeaux, le groupe La Réserve, avec notamment l'hôtel, restaurant, spa qui est fantastique, avenue Gabriel à Paris, les vendanges manuelles, le concours et le guide Amphore, le château Corbin, l'actualité mondiale des vins et spiritueux, et puis la réponse à une grande question, le bio est-il capable de lutter contre le mildiou? Alors, parce que c'est que le mildiou tout à l'heure. À mes côtés, Jean-Robert Pitt, Philippe Orbach et David Cobold. Bonjour, messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Robert, dans l'agenda du vin, on commence par un rendez-vous qu'on donne à tous les auditeurs de Invino BFM la semaine prochaine, voilà, au Whisky Live.
Très riche agenda. Donc, le samedi 24 septembre à 13h au Whisky Live, sur le stand Jack Daniels, pour une émission spéciale consacrée aux whiskies américains. Avec une programmation riche en dégustations, plus de 160 marques présentes, de rencontres, d'échanges, de masterclass, d'expériences, bar à cocktails, accord avec la nourriture, Whisky Live Paris, et le grand rendez-vous annuel des amateurs de whisky et spiritueux fins. Rendez-vous au DOC, à la Cité de la Mode et du Design à Paris, près de la gare de Serlis, et sur whiskylive.fr pour plus d'informations. Le pass est à partir de 65€, samedi et dimanche, est ouvert aux particuliers, lundi 26 septembre, c'est ouvert aux professionnels. Alors, et pour assister au direct, il faut appeler Laetitia au 01 42 89 14 14.
Laetitia, on va répéter le numéro de téléphone.
Laetitia, 01 42 89 14 deux fois.
Voilà, qui reçoit 24 sur 24.
On ne donne pas son 06. Hein.
Et on ne donne pas son 06. Même si on est très gentil. Alors, en direction la Bourgogne.
Alors, la Bourgogne, très grand événement, les 24 et 25 septembre. Ce sera la 9e édition du salon Livres en Vigne au Clos de Vougeot, au château du Clos de Vougeot, donc, qui appartient à la confrérie du Tadevin, sous la présidence cette année de Jean-Marie Roire de l'Académie française. Une grande dictée aura lieu dans le grand cellier du château, toujours un événement extraordinaire. La confrérie des chevaliers tiendra son chapitre de l'équinoxe de la plume et du vin le samedi soir. Et le prix du Clos de Vougeot récompensera un livre remarquable sur la vigne, le vin ou l'art de vivre. Débats, conférences, tout le week-end, entrée gratuite et bien entendu beaucoup de signatures de livres et tout un ensemble des livres récents parus sur le vin.
Tous les détails sponsorisés par San Antonio, bien sûr.
Bien entendu, tous les détails. Non, c'est sponsorisé par beaucoup de bourguignons, dont la confrérie du tas de vin. Tous les détails sur livresenvigne.com.
Vous connaissez bien, Jean-Robert, cette anécdotation, vous y avez été plusieurs fois.
J'en suis le président d'honneur à vie.
À vie?
Ouais.
C'est un peu comme l'Afrique.
Je m'accroche.
Allez, on revient à Paris.
Alors, le prochain dîner du Wine and Business Club Paris aura lieu le jeudi 22 septembre dans les salons du Shangri-La à Paris. Au menu, économie, gastronomie et grand cru. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Allez, on termine par la Vallée du Rhône avec les Crozes Hermitage qui montent à la capitale.
Oui, qui montent en qualité aussi. Cet automne, l'appellation Crozes Hermitage arrive à Paris avec un nouvel événement, un sommelier dans mon canap. 44 ateliers sont organisés du 26 septembre au 22 octobre. L'occasion de découvrir le vin de manière ludique, en mode home sweet home, entre amis, et de devenir un véritable expert de l'appellation. Le principe, un canap, un sommelier et de belles cuvées de Crozes Hermitage.
Pour le canap, on appelle toujours Laetitia.
Oui, c'est ça. Pour des apéros sous le signe du partage et de la convivialité. 40€ par personne. Plus d'informations et réservations en ligne sur un sommelier dans mon canap, en un seul mot.com.
Vous aimez les Crozes Hermitage, David et Philippe?
Oui.
Oui,
aussi.
Je peux développer un peu. Ce sont souvent des vins d'un rapport qualité-prix, voilà, excellent par rapport à leurs grands cousins ou grands frères, les Hermitages, beaucoup plus rares. Crozes Hermitage, appellation étendue, très très joli terrain. J'ai éprouvé ces pentes parfois ardues en faisant une course de trail il y a quelques années. Non, c'est une région très très intéressante.
Philippe?
Moi, j'aime beaucoup aussi, un peu pour les mêmes raisons.
Surtout pour la course
rouge,
à pied.
Hein. En rouge comme en blanc. Et en rouge comme en blanc. Le blanc, surtout élaboré à partir de Marsanne aujourd'hui, est remarquable de fraîcheur. Et le rouge, moi, je suis un Syrah Lovers.
Oui,
j'aime beaucoup le vin de
Syrah. Mais sur le canap, Syrah Lovers sur le canap.
Exactement. Dans le café,
toujours on pourrait recommander les vins d'Alain Graillot qui sont parmi quand même les meilleurs.
C'est votre coup de cœur, Jean-Robert,
notamment.
Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de bons vignerons. Et il y a de bons restaurants dans la région. Moins connus que ceux de Lyon.
Une bonne table, par exemple, dans la région?
Chabran.
À Pont-de-l'Isère.
Allez, pour venir tous les trois, là, on va parler du millésime 62, Philippe Orbach.
On a semé dans son canapé, on a semé aussi qui vous raconte des histoires de millésime à l'antenne, et c'est le 62, effectivement. C'est un millésime qui a L'avantage et l'inconvénient, et surtout l'inconvénient dans un premier temps, d'être après 61, parce que 61 c'était la vedette, tout le monde a parlé, tout le monde s'est dit voilà, on tire le millésime du siècle, bien avant la fin du siècle. Et 62 est arrivé derrière, un peu dans l'ombre. Et finalement, pour les gens qui sont des amateurs de petites perles, c'est un très joli millésime qui a été très bon et qui a encore, surtout sur les grandes appellations, quand on a la chance d'avoir des magnums par exemple et tout, on se de 62 aujourd'hui. Ça tient toujours. Bordelais, en Bourgogne, dans la vallée du Rhône, franchement, plutôt sur les rouges que sur les blancs, mais j'ai goûté des choses extraordinaires. Et même sur les blancs, dans les liquoreux, par exemple, c'est un grand millésime de Sauternes, par exemple.
Ah, très bien, 62. Ça. Qui est né en 62, par exemple, Philippe Forbach?
Alors, la chanteuse Lio, Jodie Foster, Liane Folly, par exemple, ou encore Demi Moore. Côté garçon, Jim Carrey, Bon Jovi, Tom Cruise, Marc Lavoine, Emmanuel Chin et aussi Emmanuel Valls.
Vous avez Philippe, Philippe, c'est qui ce garçon? Vous avez Philippe Redaud ou pas dans votre liste de people
nés, je l'ai, je vous laisse la primeur de le présenter.
Exactement, c'est le premier invité, Philippe Redaud, le directeur général de Carico. Bonjour Philippe.
Bonjour, alors, très content d'être en si belle compagnie sur le millésime 62.
Attendez un peu là parce que, alors dites-nous là, votre premier job c'était dans l'immobilier?
Oui, alors c'est des vieux souvenirs, effectivement, premier job en tant qu'agent immobilier. Et puis ensuite...
Vous êtes en Normandie?
Oui, en Normandie, voilà, origine familiale oblige.
Vous êtes 100% normand, vous êtes né à Paris par hasard.
100% normand et venu à Paris, comme beaucoup pour le casse-croûte, mais les attaches sont résolument normandes.
Alors avant de rejoindre Carico, vous avez rejoint Carico d'ailleurs en 2015, avant vous étiez chez Gamme Vert et Sogal. Le métier de Carico, c'est quoi?
Alors le métier de Carico, c'est ce qu'on appelle des centres VHU, véhicules hors d'usage. Avant, on appelait ça les casse-auto.
Mais casse-auto,
comme le dit une fameuse publicité aujourd'hui, c'était avant. Et ouais. Aujourd'hui, nous ambitionnons d'être des producteurs de pièces de réemploi à la qualité reconnue et à la traçabilité garantie.
D'accord. Et ça fonctionne comment? C'est un système coopératif?
Alors, en ce qui nous concerne, le réseau Carico, c'est le premier réseau français de centres VHU. Et c'est effectivement sous structure coopérative, avec 80 établissements indépendants répartis sur tout le territoire national.
Oui, là, 80, vous couvrez toute la France. C'est...
Oui, parce que ce sont, en ce qui nous concerne, ce sont des gros établissements, certains comptant entre 50 et 100 salariés. Donc, on est quasiment sur de l'industrie de la dépollution et de la déconstruction des véhicules hors d'usage.
Et au total, donc, le groupe, on va l'appeler comme tel, hein, réalise un volume d'affaires de 200 millions d'euros. La pièce d'occasion, elle est beaucoup, beaucoup moins chère que la pièce neuve?
Alors, 50 à 70% moins chère.
Ah, quand même.
Ce qui est quand même considérable. Imaginez que l'un d'entre nous, en sortant de cette émission, retrouve sa voiture avec un rétroviseur arraché par un automobiliste indélicat.
C'est possible, plutôt celui de David.
Oui, peut-être celui de David. Un rétroviseur, aujourd'hui, électrique, 250-300 euros, et chez nous vous allez le trouver à 50-70 euros.
Ouais, quand même. Alors il faut se méfier parce que parfois sur certains sites il y a des gens qui bidouillent, il y a des vraies fausses, on va pas citer de site, hein. Oui. On peut trouver du faux, non?
Alors du faux, non, de l'illégal, oui.
Ah, de l'illégal, quoi. Ouais.
Effectivement, en s'adressant à des centres agréés comme les nôtres avec une réputation solide, il y a une garantie de traçabilité d'origine de la pièce. Si vous achetez un amortisseur chez nous, on peut remonter jusqu'à la véhicule sur lequel il a été prélevé, vous dire de combien de kilomètres avait le véhicule, etc.
Et l'âge de la conductrice, là,
on m'a dit. Oui, on n'est pas censé le dévoiler, mais effectivement, par carte grise interposée, on va l'avoir, l'âge de la conductrice.
Question intéressée, vous faites aussi dans la pièce moto?
On fait également dans la pièce moto.
Ah, bien.
Nous avons quelques établissements qui sont spécialisés uniquement en moto et d'autres qui font la moto en plus de
en
la
plus,
voiture.
Le e-commerce, ça vous concerne aussi?
Alors, on se lance résolument dans le e-commerce avec un site qui ouvrira tout début octobre. Certains de nos adhérents avaient déjà des sites à leur échelle individuelle. Et là, on fait un site mutualisé qui présentera la plus grosse offre de France de pièces détachées d'occasion. C'est-à-dire la totalité de notre stock, c'est 20 millions de pièces en stock.
Ah, quand même. Et ça, c'est quoi? Ça sera carico.com, je suppose?
Exactement, carico.fr.
Ouais. .fr, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec une nouvelle loi qui arrive en janvier?
Alors, c'est effectivement quelque chose de majeur. Il y a la loi de transition énergétique d'août 2015 qui a vu son décret d'application promulgué le 30 mai 2016. Il va rentrer en vigueur le 1er janvier 2017. Alors, ce décret, il dit quoi? Il dit que, dorénavant, à partir du 1er janvier 2017, tout réparateur qui propose des prestations d'entretien ou de réparation doit permettre au consommateur d'opter pour de la pièce de réemploi issue de l'économie circulaire.
Une offre, quoi.
Concrètement, vous arrivez pour faire réparer votre véhicule, parce que je reprends l'exemple du rétroviseur tout à l'heure, votre
rétroviseur
est cassé de David Cobold. Il vous en veut aujourd'hui. Vous avez l'habitude. Eh bien, votre réparateur doit dire, vous dites donc, monsieur Cobold, votre voiture, elle a 9 ans, c'est l'âge moyen du parc français en circulation.
C'est 9 ans. D'accord.
Est-ce que c'est bien raisonnable de mettre un rétroviseur neuf? Et donc, tous les garagistes, tous les centres auto
devront proposer.
Vous ne serez pas obligé d'accepter, mais ils devront proposer.
Proposer systématiquement. Alors, je sais que vous écoutez chaque week-end InVino BFM à Paris sur 96.4 BFM Business. Côté vin, tant blanc que rouge, vous êtes Bordeaux en zoomant sur les Pessac Léognan. C'est ce qu'on m'a dit.
Oui, alors je vois que vous êtes bien renseigné.
On a nos sources ici.
Voilà, vous avez vos sources. Alors, effectivement, quelques noms peut-être. Les châteaux.
Il faut justifier. Pourquoi il y a des bons Bourgognes, des bons Alsaces.
Peut-être parce que je les ai découverts très tôt. Et que j'y suis resté attaché.
Une notion de fidélité, Jean-Robert, vous savez ce que c'est que la fidélité. Et alors, pour terminer, il paraît que côté cuisine, vous êtes champion du monde du homard au barbecue.
Décidément, vous êtes vraiment très très bien renseigné.
On a filmé pendant tout le mois d'août.
Bon, alors, effectivement, peut-être affinité normande oblige, et puis affinité nautique oblige. Et puis, il est encore meilleur quand on l'a pêché soi-même. Et quand j'en ai le temps, je me livre volontiers à l'exercice.
Bon, comment s'appelle votre livre sur la voile, sur la mer, là, qui est très bien?
Alors, oui, effectivement, en marge des activités professionnelles, j'ai publié deux ouvrages. L'un qui s'appelle Le Royaume des Écréaux et le second qui s'appelle La Guerre des Minquiers. Et qui raconte des histoires saugrenues qui se sont passées dans des petits archipels de rochers à mi-chemin entre les côtes françaises et l'île de Jersey.
Passionnant, à lire absolument, et à relire d'ailleurs. Merci beaucoup Philippe Renaud, directeur général de Carreco. Vous connaissez l'hôtel, restaurant, spa, la réserve à Paris, Yves de Gabriel ou pas?
De nom, mais je ne suis jamais allé.
Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on va parler maintenant avec son directeur général, Didier Galvez, qui est directeur général donc de la Réserve Paris, mais également du groupe. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bon, alors vous, on va finir par vous retrouver président de la République. Hein. Vous quittez jamais le 8e, quoi.
Ah oui, c'est un lieu que j'apprécie énormément.
Parce qu'avant, donc Didier, vous étiez président donc du Bristol.
Oui.
Là, vous êtes dans la rue parallèle, avenue Gabriel, avec les fonctions.
Donc, entre les deux, il y a la rue du Cirque, parlons.
Exactement. Alors, racontez-nous un peu. Donc,
la rue du Cirque, non, je ne suis pas qualifié.
Bon, ça s'appelle une perpendiculaire. Alors, ce groupe La Réserve que vous dirigez maintenant, donc un petit mot, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge pour vous.
C'est un nouveau défi, c'est un très beau défi. C'est avec Michel Rébier, donc propriétaire des hôtels La Réserve, que vous connaissez également puisqu'il est propriétaire de Caudet-Sournel et des Champagnes Michel Rébier, qui sont merveilleux, si je peux me permettre.
Et d'un très beau domaine à Tokaj.
D'un excellent, magnifique domaine à Tokaj. Donc les hôtels La Réserve, l'histoire a commencé il y a un petit peu plus de 13 ans avec La Réserve à Genève. Ensuite, La Réserve à Ramatuelle. Et nous avons sur Paris deux établissements. Au Trocadéro, nous avons 10 merveilleux appartements et La Réserve Paris. Mais également, en cinquième, j'ajouterai, nous louons la Chartreuse à Caudet-Sournel, qui peut être privatisée.
Et La Réserve Paris, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc il y a quoi? Il y a un excellent restaurant étoilé gastronomique, il y a un hôtel de luxe, il y a un spa formidable, avec une qualité de service matin, midi et soir, irréprochable. C'est ce qu'on m'a dit.
Irréprochable, puisque l'hôtel a été voté meilleur hôtel de France cette année, et le restaurant obtenu avec Jérôme Blanquetel, 2 étoiles au Michelin en un an, qui est tout de même un record dès sa première année. Il a obtenu ses 2 étoiles.
Ouais,
c'est exceptionnel.
Ouais, c'est exceptionnel.
Mais Jérôme vient de chez Sandorin, chez Paco préalablement. Il a de très très belles écoles.
Ouais. L'hôtellerie, donc, un petit mot sur les chambres?
L'hôtellerie sur Paris, ce n'est pas bon. Mais ça, je ne vais pas vous le dire, vous le savez déjà. Dans le cas de la Réserve Paris, nous en sortons. Nous avons 40 clés, nous avons 25 suites. Donc nous avons un bon taux d'occupation, mais nous ne sommes pas révélateurs du marché parisien.
Le marché parisien, qui lui-même vous confirmait au niveau de l'hôtellerie et la restauration, Didier?
Oui, au niveau de l'hôtellerie et la restauration, je l'entends de mes confrères, c'est pas une très très bonne, c'est une mauvaise année, disons les choses telles qu'elles sont. Nous bénéficions d'un produit qui est merveilleusement rénové, très bien situé dans une contre-allée des Champs-Élysées.
42 de Gabriel.
42 avenue Gabriel, très bon restaurant, décoration de Jack Garcia. Donc vraiment, il y a beaucoup d'atouts pour nous.
Et le bar est sympa aussi. Hein. Le bar, on vient...
Très sympa petit bar, et puis une cour intérieure aussi. Une cour intérieure, une bibliothèque. Enfin, je ne vais pas vanter les mérites de cet établissement.
Non, la clientèle, elle est française internationale, même s'il y a moins d'étrangers en ce moment.
Alors
en
toujours,
théorie,
toujours le même principe. Hein, à peu près 40-45% de clientèle américaine, et puis 40% de clientèle européenne.
Oui, et plutôt affaire, plutôt touristique, ça peut les donner.
C'est vraiment pour nous beaucoup plus une clientèle le tourisme qu'affaire, je dirais.
Il y a un côté discrétion, c'est volontaire ça.
C'est voulu, c'est unique. c'est tous les grands palaces, bon, nous les connaissons tous bien, ils ont tous une certaine taille. Nous, c'est une, c'est la vision de Michel Rébier, c'est d'aller sur des petites entités avec une, un très, très forte qualité de produit. Un petit peu comme lorsqu'Aman a été fondé il y a 30 ans en Asie. Notre volonté, c'est d'avoir une collection d'hôtels, mais de petite taille. Mmh. Par exemple, nous sommes le seul hôtel à Paris avec un service majordome dans toutes les chambres.
Et le, alors, je sais pas si on parle un petit peu de prix, quand même, ça va être combien les chambres en tout cas?
Nous commençons à 1100 euros.
1100 euros, d'accord. Et puis, il y a une grande suite aussi, non?
Ça va un peu plus, mais pas de façon trop excessive, non.
Bon. Didier Calvez, vous, à titre personnel, vous avez investi dans le vin avec une petite pépite qui s'appelle le Château Clarisse. Racontez-nous.
Clarisse, c'est un défi personnel. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Comme ça, je me suis lancé dans cette aventure avec Stéphane de Renancourt. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai marché pour ce qu'on appelle des satellites qui offrent des rapports qualité-prix comparés aux grands vins de Saint-Émilion exceptionnels.
Vous êtes dans quelle appellation?
Alors nous, on en puis ce gain de Saint-Émilion, mais nous avons la chance d'être à 100 mètres sur un plateau avec un merveilleux sol argilo-calcaire. C'est une petite propriété de 15 hectares, dont simplement 11 en production au jour d'aujourd'hui, et une production à peu près de 38 hectolectares, et là, préalablement, j'ai dit que nous passions bio, et David m'a dit, on suit la mode. Bon, nous suivons la mode, donc oui, Clarisse passe bio cette année.
Et pourquoi Clarisse, Didier, d'ailleurs, Château Clarisse?
Clarisse, c'est l'amour, c'est, je cherchais un nom, et puis en fin de compte, c'est le nom de notre fille, donc tant qu'à se faire plaisir, mieux vaut nommer un vignoble après sa fille.
La distribution, comment s'est organisée? Parce que, bon, c'est en France, également à l'international, parce que la quantité est confidentielle, en fait. Hein.
Oui, alors la quantité, nous sommes quand même dans les, maintenant, nous approchons les 50 000 bouteilles, ouais. 60% à l'étranger, 40% en France, et nous vendons tout en direct à travers le vignoble.
Et la gamme de prix, ça va être combien pour les millésimes récents?
Alors, vous avez trouvé un petit peu au-dessus de 20 euros la bouteille pour le Clarisse, et d'accord, pour le Clarisse vieille vigne, plus dans les 35-40 euros, mais le Clarisse régulier, 20 euros.
Et aujourd'hui,
mais
donc...
c'est le prix à... C'est légèrement au-dessus de 20 euros, mais lorsque vous regardez vos coûts de production, les coûts d'acquisition, c'est un très bon rapport qui a été pris comparé aux grandes Saint-Émilion.
Oui, bien sûr. Et il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement pour le Château Clarisse, un site, une adresse
www.chateau-clarisse.com.
Et cette année, là, le 2016, on se commande, Didier?
Cette année.
Excellent, comme chaque année.
C'est un peu l'idée du 62 que j'entendais Philippe mentionner préalablement. On sort d'un 2015 d'anthologie. Ouais. Et brusquement, nous avons 2 mois et demi de soleil. Alors, sur des sols argilo-calcaires, c'est merveilleux. Mais il ne faut pas s'attendre à de grandes quantités cette année. Mais un très, très beau vin. Et incidemment, ça intéressera Philippe, sur le 2015, nous avons fait des rafles entières à hauteur de 15% dans le Clarisse.
D'accord.
On s'est amusé à faire des 15% de rafles sur les jeunes parcelles.
Ce qui est quand même beaucoup. Les anciens vignerons. Exactement. Est-ce que vous connaissez, Didier Le Calvez, pour terminer, le vin de Tahiti?
Absolument pas.
Eh bien, justement, vous allez tout savoir grâce à Philippe Orbach. Philippe, on fait du vin à Tahiti. Vous n'êtes pas trompé, là, de chronique? Il n'y a pas début de je ne sais pas quoi, là?
Non seulement je ne me suis pas trompé, mais en plus, je vous en ai déjà parlé brièvement l'année dernière, parce que j'avais déjà fait un saut. Puis là, la semaine dernière, je vous ai raconté un petit peu un périple californien, et notamment entre Napa et Sonoma. Et puis après, je suis parti sur Tahiti, rencontrer des gens qui sont juste des passionnés, dont certains nous écoutent, et nous les saluons, et regoûter ce fameux vin de Tahiti. Alors cette histoire de vin de Tahiti, j'ai essayé, parce que c'est la deuxième fois que j'y vais, d'en savoir un petit peu plus. C'est né, ça n'a pas changé, c'est né de l'idée d'un personnage qui s'appelle Dominique Auroy, qui a fait fortune par ailleurs dans pas mal d'activités et qui a une vraie passion du vin. Sa maison, c'est musée à la gloire du vin.
À Tahiti.
Exactement, au-dessus de Papeete, du bout d'une petite colline qui surplombe la ville. C'est un vrai musée de la vigne du vin.
Il y a un bar à vin qui est la Marotto, où on déguste
exactement
des grands vins.
Et Jean-Robert Pitt se ravit parce que c'est la reconstitution quasiment du château du Clos Vougeot, dans lequel il va souvent, il a sa chambre.
Est-ce qu'il est très bourgogne, quand même, Jean-Robert?
Jean-Robert. Donc, c'est un peu ça, là-haut. Ça, c'est sa passion. Et sa passion s'est concrétisée par le fait de vouloir absolument faire du vin un jour. La question que je me suis posée, je vais vous en reparler précisément de ce qui se passe aujourd'hui, mais la question qui s'était posée, est-ce qu'il y a eu du vin avant, finalement? Oui. Parce que c'est une aventure très récente. Ça date de 1992, une année particulière, pour moi surtout. Oui, il y a eu de la vigne avant. Il y a eu de la vigne avant, sauf qu'elle a disparu il y a déjà très longtemps. Et malheureusement, il n'y a pas de trace écrite.
Oh, les missionnaires qui en avaient planté.
Oui, oui. Exactement. Il n'y a pas de trace écrite de ce que c'était. Personne n'arrive à retrouver le cépage.
Il n'y a même pas une petite bouteille qui traîne.
Non, même pas.
1992,
la jetée à la mer.
Vous étiez. C'était l'année du titre, du sacre, meilleur sommelier du monde.
Alors donc, ils ont. La problématique, c'est de savoir où planter la vigne. Donc, il y a 5 archipels principaux en Polynésie française, des Tuamotu, les Marquises plus au nord, le secteur de Tahiti, Moréa, etc. Et plus au sud encore, dans les Australes. Et finalement, c'est à Rangiroa, dans les Tuamotu, qui est une île magnifique, qui en polynésien veut dire l'île au ciel immense.
Mais ça n'avait pas échappé d'être
cobalt. C'est extraordinaire. Le soir, quand on sort sur ces atolls, on a l'impression d'être dans le ciel, tellement la proximité et la pureté de l'air fait.
Philippe, j'ai pas vu de photo sur Facebook à ce sujet.
Ça, c'est magnifique. On peut pas tout mettre sur Facebook. Et donc, c'est pour ça que je suis là pour vous en parler en même temps. Et donc, c'est sur cet atoll de Rangiroa où en 92, on commençait à planter des vignes. Et c'est sur Rangiroa donc que le résultat est le plus intéressant. Aujourd'hui, il y a 8 hectares de vignes. C'est mené par un jeune œnologue qui s'appelle Sébastien Tépenier, qui est originaire de la Nièvre, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai beaucoup discuté ces derniers, dans l'occasion de mon dernier voyage. Il est passionné de blanc. Alors, dans la Nièvre, il y a le fameux Sancerre, les Mentoux, etc., les vins de cette région-là. Et du coup, il est allé chercher un peu cet esprit de fraîcheur, peut-être de... Alors, ça va faire bondir.
La fraîcheur de la Nièvre à Tahiti, Philippe.
De minéralité. Oh là là. De voilà. Alors, il faut dire que la minéralité, là-bas, on sait de quoi on parle, parce qu'on est dans un univers complètement minéral.
Bien sûr.
Corallien, enfermé, l'atoll est emprisonné, effectivement.
Donc, c'est les crabes qui viennent manger un petit peu les.
Et Rangiroa, d'ailleurs, est célèbre non seulement pour son vin maintenant, mais également pour sa passe, qui fait qu'on passe d'une partie où on a quelques centimètres, quelques mètres d'eau très peu, à un apic de 3000 mètres, dans lequel les gros poissons viennent attendre les petits à la sortie de cette passe. Et il paraît que pour aller voir les poissons, c'est juste extraordinaire pour découvrir le monde marin. Alors pour revenir à la vigne, on est au milieu d'un des atolls, l'un des motus, des terres donc de l'atoll de Rangiroa. Il y a 8 hectares de vigne au milieu de cocotiers, c'est assez surprenant. Hein. Ils sont obligés d'irriguer, donc ils ont creusé des puits pour retrouver de l'eau claire, pour pouvoir effectivement faire en sorte que ça pousse. Il y a 2 récoltes et demi. Alors, pourquoi 2 récoltes et demi par an en moyenne. Sur une période effectivement de 2 ans, ils arrivent à quasiment 5 récoltes. Il y a ce qu'on appelle la récolte d'hiver qui a lieu au mois de mai, parce que c'est l'inversion des saisons, et la récolte australe qui a lieu au mois de novembre. Alors ils ont essayé plein de cépages, jusqu'à 100 cépages différents pour savoir lequel résisterait à ces ambres marins, à cette corrosion corallienne de ces atolls. Et finalement, il y en a 3 qui ont résisté. L'Italia, qui est un cépage plutôt de raisin à croquer, qui est juste très bon, même sans faire du vin. Le Muscat de Hambourg, qui est un raisin de muscat aromatique, mais rouge. Et puis finalement, c'est le Carignan, qui est un cépage...
Ça résiste à tout, le Carignan.
notamment des gens du Roussillon, d'Espagne d'ailleurs, enfin où ça pousse le Carignan. Et le Carignan rouge, notamment... qui a le mieux résisté. Du coup, l'essentiel des vins, il y a 4 vins aujourd'hui qui sont produits. Il y a le vin le plus classique, qui est un blanc élaboré à partir des raisins rouges de Carignan, bien sûr, que l'on presse rapidement pour éviter la coloration.
On fait un blanc de noir.
Exactement, on fait un blanc de noir. Donc, ça s'appelle le corail. Il y a un cru particulier qui n'est pas produit chaque année, qui est élevé un peu à la bourguignon, entre guillemets, qui s'appelle le clos du récif, qui est en blanc toujours.
Clos du récif.
Et puis, il y a un blanc moelleux, qui est élaboré essentiellement avec l'Italia et le Muscat de Hambourg. Et il y a un rosé qui a beaucoup de succès, qui est fait aujourd'hui, elle est dans l'esprit d'un rosé un peu provençal dans sa couleur et dans sa, peut-être dans sa densité, qui est le rosé qui s'appelle Nacara. Le domaine s'appelant, l'ensemble de ces appellations de chacun des crus s'appelle le domaine des Antilles.
De toute façon, ce sont les Tahitiens qui ont inventé le rosé, non? C'est pas Tahitien.
Est-ce que les bouteilles ont une forme particulière?
Alors, les bouteilles sont de forme plutôt bordelaise. Enfin, la bordelaise étant plutôt une bouteille de Frontignan, parce qu'au départ, c'était cette bouteille.
Ça se complique tout
classique.
Ça. Hein.
Donc, ces bouteilles classiques de type bordelaise d'aujourd'hui. Mmh. Alors, quel goût ça a finalement, avec quoi, comment on le goûte, etc. Alors, on le goûte plutôt jeune, même s'il m'est arrivé de goûter quelques rares bouteilles de rouge, ce qu'ils ont produit aujourd'hui, mais ils en produisaient à l'époque, était pas mal. Il y a un côté un petit peu salé, c'est vrai.
Iodé, c'est vrai.
Iodé aussi, c'est vrai. Une petite douceur un peu caressante. Ça manque peut-être un peu d'acidité, manque un peu de peps, de profondeur. Mais force est de constater que j'en ai goûté maintenant un certain nombre de millésimes et que les choses d'année en année s'améliorent. Alors il y a quelque chose qui me paraissait évident mais qui finalement est assez récent, c'est la démarche bio qu'on a évoquée ou qu'on évoque plusieurs fois autour de la table. il faut dire que dans un atoll comme ça, pas être, pas faire du bio, ça serait quand même
par rapport aux vins de Suresnes, ils sont meilleurs ou pas?
Je pense que c'est aussi original l'un que l'autre.
Mais mine de rien, ça aurait été dur de faire du bio sur un atoll. C'est vrai que les conditions climatiques, ça ne peut pas être évident.
Jean Rapide.
Alors juste en haut, ça prouve à quel point donc aujourd'hui il n'y a plus de limite à la viticulture. On fait du vin en Scandinavie maintenant, au nord de la Pologne, en Courlande, etc. Enfin, il y a du vin vraiment partout. Et là, il faut rendre hommage à un des, pour ce vignoble de Tahiti, de ceux qui ont conseillé Dominique Auroi au départ, qui est Bernard Hudelot, vigneron des Hautes-Côtes, vigneron des Hautes-Côtes de Nuit, qui a réussi à redonner du lustre à ce vignoble qu'on appelait celui de l'arrière-côte avant, où il y avait du Gamay et de la Ligoté, il fallait se tenir à la table pour les boire. Et aujourd'hui, dans les Hautes-Côtes, il y a des très bons vins, et Dominique Auroi, qui connaissait ces vignobles, a demandé à Bernard Hudelot, viens me faire du vin sur les patates de corail, parce qu'on dit patate, ça s'appelle une patate de corail de Tahiti.
Philippe Abraque. Alors, forcé de constater que le vin gagne en galant, parce que nul n'est prophète en son pays, ça c'est bien connu, et les restaurateurs, les sommeliers, les cavistes, etc., de Tahiti, voyaient ça avec un certain dédain, et puis pour eux c'était pas franchement du vin, etc. J'ai remarqué à cette fois-ci que pratiquement tous les événements auxquels j'ai participé,
ils étaient servis
dans des belles maisons comme le Cocos, le Lotus, le Berger, enfin le Brando, qui est juste un endroit merveilleux sur l'île de Tetiaora. En face, ils attendent plus que l'arrivée de Didier Le Calvez pour dire un jour cet endroit, parce que
c'est Jacques Garcia qui mettra
des rideaux rouges,
il y aura des rideaux rouges.
En ce moment, Didier est un peu en réserve, donc on va le laisser tranquille.
Oui, mais tant qu'ils achètent du Château Clarisse. Hein.
Exactement, mais c'est un endroit juste magique, qui est noté le Brando, qui est conseillé par Guy Martin. C'est vraiment un endroit de rêve. Mais tous sont très fiers maintenant, de plus en plus en tout cas fiers du vin de Tahiti. À l'apéritif notamment, c'est vraiment juste un bonheur. Ils adorent là-bas l'un des grands poissons, c'est le thon. Ils ont la chance d'avoir beaucoup de thon, de les pêcher raisonnablement, mais de s'en servir en sushi, en tartare, etc., etc.
Et avec du lait coco.
Sur la plage, exactement, de faire une petite marinade de thon au lait de coco et de goûter un vin blanc ou rosé de Tahiti.
Ça, c'est excellent.
Je trouve qu'effectivement, il y a pire dans la vie. Ouais. Je consens.
Et le thon, donc, il est quoi? Il est toujours mariné, quoi? Comment vous préparez le thon?
Alors, cru, en sashimi, ou en tartare, ou alors mariné au lait de coco, c'est vraiment, d'ailleurs, les vignes sont au milieu de cocotiers.
Donc ils vendangent en pirogue, quoi.
Une partie, effectivement, comme ils irriguent, une partie est canalisée.
Ouais, essayez ça en Bourgogne, Jean-Robert.
Donc, vendanges en pirogue, et en chanson, et en musique, parce que les Tahitiens sont des grands musiciens, donc le ukulélé et tout, ils ont des très très jolies voix, et c'est un peuple attachant d'abord, fier de ce qu'ils peuvent faire sur place. Il faut dire que c'est beau.
Ah, c'est magnifique. Voilà. Et le prix, comment ça coûte? Parce que c'est bien joli, tout ça, les Tahitiennes, tout ça, mais ça coûte cher, non?
Oui, alors ça coûte cher. C'est pas des vins donnés. Les conditions sont un peu particulières. Mais sur place, alors c'est en francs pacifiques. C'est comme ça que l'on calcule là-bas.
Traduisé en yens.
En équivalent euro même aujourd'hui. Il y a plus beaucoup d'endroits où le franc existe, mais là-bas, ça existe encore. C'est des vins qui coûtent, une vingtaine d'euros la bouteille.
La bouteille, quoi. Ouais. Et on peut le trouver en France ou il faut vraiment la Tahiti avec
les calages horaires? On en trouve à Tahiti.
En métropole, pardon.
On en trouve en Tahiti.
Pardon, pour moi.
Dans les TOM, parce que c'est un territoire d'outre-mer. Et on en trouve un peu en France, chez certains cavistes, mais c'est quand même un peu compliqué parce que la quantité, vous l'avez compris, même s'ils font deux récoltes et demie par an, c'est pas mal, reste quand même limité.
Ouais. Bon, donc ça, c'est à découvrir quand on est sur place, évidemment. Et à Noël, vous piégez un copain à l'aveugle à Paris.
Et l'endroit est juste extraordinaire, vaut la peine pour les amateurs de nature, bien sûr, de ciel et d'étoiles, etc.
De mer. Voilà.
Vous avez plein les yeux quand vous n'y pas.
C'est très beau, ça vaut la peine et j'espère y retourner.
Merci beaucoup Philippe Arbrac. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour parler du bio et du mildiou.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et Philippe Roac.
Oui, je suis heureux de vous en rappeler le principe. Chaque semaine, vous rappelez, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. La semaine dernière, rappelez-vous, la question était: quel est le nom du magazine de Michel Bétane et Thierry De Sauve? Réponse A, en magnum. Réponse B, Balthazar. Réponse C, 750 grammes.
Et la bonne réponse?
En magnum, tant qu'à faire. C'est la réponse A.
Cette semaine.
La nouvelle question est: quel cépage n'est pas planté au Château Clarisse? Réponse A, le Cabernet Franc. Réponse B, le Merlot. Ou réponse C, le Riesling. Hein, pour répondre et gagner, vous le souhaitez, hein, le guide de vin du Wine & Business Club, vous pouvez nous envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail suivante invino@vinojeux.com. Et comme il y aura beaucoup de gagnants, on va vous tirer au sort pour, ben voilà, pour savoir si c'est vous le gagnant.
Qui est le vainqueur. Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Alors, avant d'accueillir Pierre Guigui, place maintenant à Jean-Robert Pitt, le président de la Société de Géographie et de l'Académie des Vins de France, pour nous parler du mildiou. Alors, mildiou, qu'est-ce que c'est que le mildiou, Jean-Robert? Ah,
c'est une saleté épouvantable. C'est une maladie cryptogamique qui s'attaque aux feuilles de vigne et qui finalement tue une récolte.
Bon, c'est pas une bonne nouvelle, quoi.
C'est pas une bonne nouvelle. Bon. Donc des années humides et fraîches comme on a eu cette année, enfin des étés surtout dans le nord de la France, donc ont permis au mildiou qui vient d'Amérique de se développer très très fortement. Il y a qu'une solution pour. Alors il y a plein de produits chimiques. C'est le sulfate de cuivre de la bouillie bordelaise qui a été inventé en 1878, qui permet de le soigner, mais quand il y en a beaucoup, il faut passer très très souvent dans les vignes, on en met beaucoup, et donc arrive un moment où on sort des règles de l'agriculture bio, et comme il y a un certain nombre de vignons qui étaient en bio, par exemple en Bourgogne, cette année, on a eu beaucoup, beaucoup d'abandons, de gens qui sont sortis des règles du bio parce qu'ils n'arrivaient plus à lutter contre le mildiou. Et bon, il faut dire que c'est une année où ils ont été très affectés également par le gel. C'est vraiment une année difficile. Alors, quand on fait un peu l'histoire de la viticulture et de la vinification, il y a trois périodes. Il y a une très longue période qui est celle de l'empirisme total, qui remonte aux origines de la vigne, 7000 ans avant Jésus-Christ, et qui va jusque en gros à la Seconde Guerre mondiale, et où on a progressivement trouvé des améliorations, des techniques pour faire du meilleur vin, pour conduire la vigne, pour mener les vinifications. Parmi les améliorations récentes, c'est-à-dire des siècles derniers qui ont été les plus importantes, il y a eu le soufre, qui arrive grâce aux Hollandais au XVIIe siècle et qui est un produit hygiénique extraordinaire. Sans soufre, il est très très difficile de faire du bon vin. Il y a certes des vins sans soufre agréables, mais aussi beaucoup d'accidents avec ces vins pour lesquels les vignerons décident de ne pas utiliser de soufre du tout. Il y a eu la greffe au XIXe siècle, qui est une invention extraordinaire pour lutter contre le phylloxéra, qui est encore une autre saleté, mais un puceron cette fois-ci, qui vit dans le sol et qui est venu des États-Unis.
Aussi.
Et puis. Et puis, il y a eu le sulfate de cuivre. Ben, c'est un des effets de la mondialisation, mais en même temps, on a eu de très bons effets, puisque les Américains sont des clients excellents pour nos vins, donc c'est parfait. Et il y a eu la bouillie bordelaise, donc inventée à la fin du 19e siècle pour lutter contre le mildiou. La deuxième période, c'est la période des vins techno. Donc c'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60-70, où on invente des quantités de produits chimiques, de pesticides, d'intrants, qui permettent de lutter contre les maladies, qui permettent d'augmenter les rendements. Donc, on avait dit, par exemple, que la potasse, les mines de potasse d'Alsace sont fermées. C'est pas grave, puisqu'il y a qu'à en ouvrir dans les vignes, tellement on en a mis dans certaines parties du vignoble alsacien. Donc, on a mis des engrais, des pesticides de toutes sortes. On a tué les sols. Donc, on a été beaucoup trop loin. On a fait des vins technologiques, donc qui étaient des vins plutôt bien faits, mais sans âme, et ne ressemblant plus au terroir. Donc tellement c'était une viticulture artificielle, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres aspects de l'agriculture avec le blé, le maïs, les céréales, le lait par exemple. Hein, le lait industriel est un lait qui ne peut pas porter le goût du terroir compte tenu de la manière dont il est, dont on élève les animaux. Et puis la troisième période qui s'est ouverte donc dans les années 60-70, c'est la viticulture dite bio, donc une viticulture d'abord raisonnée où on a essayé de diminuer les intrants, et puis bio avec un certain nombre de règles de plus en plus strictes, et on a même été jusqu'à la biodynamie qui est au fond très très différente de l'agriculture bio, parce que la viticulture bio est scientifique. Elle repose sur une connaissance approfondie des maladies, de la plante, des sols, des maladies. Et donc, on essaye de diminuer le plus possible les intrants, de s'interdire un certain nombre d'intrants, de façon à avoir des sols vivants et à respecter un certain nombre d'équilibres naturels. La biodynamie, c'est très différent, parce que c'est une espèce de... C'est assez fumeux, hein, c'est de la pensée magique, un tout petit peu. C'est tiré de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est un personnage très, très curieux, qui, en 1924, a inventé, a appliqué ces grandes théories qui concernent l'ensemble de la vie des hommes sur la Terre à l'agriculture. Michel Onfray parle dans son dernier livre qui s'appelle Cosmos de la théorie du fumier spirituel. Parce qu'il y a un certain nombre de techniques qui consistent, par exemple, à mettre de la poudre de silice, à mettre du fumier de vache bio enterré dans le sol, dans une corne de vache. Ensuite, on fait
qui chante l'opéra de Verdi.
Ensuite, on fait des infusions, des décoctions. décoction, on prend des plantes en toute petite quantité. Ça ressemble un tout petit peu à l'homéopathie en matière de, par rapport à la médecine. C'est-à-dire que c'est pas inintéressant, ça marche parfois tant mieux, il faut y croire ou ne pas y croire, mais ça n'a rien de scientifique. Mmh. Strictement rien de scientifique.
Il faut peut-être aussi rappeler, Jean Repère, que ce monsieur Steiner était anti-alcool, totalement.
Oui, lui en plus.
C'est un teetotaler.
En plus. Ça va jusqu'à... Aujourd'hui, les biodynamistes vont, pour certains, pour les plus extrémistes, d'abord, il y a un langage... Heureusement, tous les biodynamistes, et Pierre Guillier les connaît bien, tous ne parlent pas de ces théories. Ils les appliquent, ils y croient. Très bien, certains font du bon vin. Je suis pas d'accord avec Michel Onfray lorsqu'il dit, il écrit dans Cosmos, hélas, je n'ai jamais bu de vin issu de la biodynamie qui ne soit une exécrable piquette. C'est pas vrai, il y a des très bons vins issus de la biodynamie, parce qu'il y a des bons vignerons.
Il y a des très mauvais. Il y en a de très bons.
Bien entendu. Personne ne va dire du mal des vins de Sintumbrecht ou de la Romanée Conti ou de Ponte Canet. Malheureusement, la chère Anne-Claude Leflève s'est soignée de sa maladie dont elle est parti après des années de souffrance par les mêmes méthodes issues de la biodynamie.
Ça marche ou ça marche pas.
Il y en a qui vont faire écouter de la musique à leurs plantes. Je connais un bon vigneron, je vais pas le citer ici, qui dit bon, je fais de la biodynamie, on m'a dit de faire écouter Mozart, je fais écouter Mozart à mes vignes, ça leur fait pas de bien, ça leur fait pas de mal. Mais il en rigole un peu.
Est-ce qu'il aime bien Mozart, lui?
Oui, il aime bien Mozart, mais ces vins sont excellents. Je voudrais citer une personne importante dans la viticulture française qui est une des grandes adeptes, une des premières d'ailleurs de la biodynamie, qu'il fait payer très très cher à ses clients, puisque je crois que ça fait partie des vins les plus chers de France. J'ai nommé la Loubise Leroy, donc, qui elle est une fanatique de la biodynamie, mais qui dit, je la cite là dans une interview récente à Bourgogne aujourd'hui, quand certains disent je fais de la biodynamie alors mes vins sont meilleurs, c'est du marketing, j'ai horreur de ça. Probablement que dans le temps, la biodynamie donnera de bons vins, mais pas en un an. La géologie, ce sont des millions d'années, etc. Comment voulez-vous que nous, en 29 ans de biodynamie, on ait changé quoi que ce soit, etc. Ça, c'est très bien. En revanche, je suis moins enthousiaste lorsque elle est persuadée que les vignes sont des êtres vivants. Bien sûr, c'est vivant, c'est une plante, c'est vivant. Mais des êtres vivants, ça, c'est typique de la biodynamie, hein, des théories anthroposophiques de Rudolf Steiner. Donc, quand elle dit, à propos du rognage, vous savez ce qu'est le rognage, ça consiste à couper, à partir du mois de juin, la vigne pousse dans tous les sens, et donc vous avez des branches qui empêchent de passer entre les rangs et qui épuisent un peu la vigne. Alors, elle dit, la Loubise Leroy, mes vignes étaient fracassées, et chaque fois que je les voyais, je me disais, c'est plus possible, tu ne peux pas continuer à faire ça. Alors, un jour, je leur ai fait une tisane de camomille, un quart d'heure après, on les voyait respirer, elles reprenaient vie, j'avais trouvé la bonne solution, depuis 99, on n'a plus jamais rogné, ça peut nous poser des problèmes, car les branches mesurent jusqu'à 3 mètres, mais on trouve des solutions, on passe dans les rangs à l'aide de petits quads, etc., qui sont moins lourds que les chevaux attelés, parce que d'abord il faut cultiver au cheval dans la biodynamie. Donc il y a un certain nombre de principes, ceux qui en parlent en général vont trop loin, ce sont des télé-évangélistes un petit peu, allez je vais en citer un, il va m'en vouloir à mort, mais tant pis, mais c'est Nicolas Joly qui a théorisé, qui a écrit plusieurs livres sur la biodynamie.
Il était pionnier à la matière, hein, en France.
Oui, mais il en a tellement, tellement parlé. Je trouve que le vin doit se juger le verre à la main, et il doit être éblouissant comme ça. Et je connais plein de gens, vous en connaissez tous autour de cette table, qui ne font ni bio ni biodynamie, et qui font des vins magnifiques. Je connais des gens, j'en cite un par exemple, qui a quitté la biodynamie comme Charlepin, qui continue à faire des bons vins. Il y a des gens, bon, voilà.
Allez, on réagit un peu. Au propos de Jean Robert. Alors, Pierre Guigui, c'est intéressant parce que.
Très bien, mais ne nous prenons pas trop au sérieux et je demanderai aux vignerons qui en font de ne pas trop en parler, qu'ils le fassent, qu'ils pratiquent, mais je dirais que ça fait partie un peu du principe de laïcité qui fait qu'on peut vivre ensemble dans ce pays, que de ne pas trop vouloir convaincre tout le monde que c'est le seul moyen de faire du bon vin.
Pierre Guigui, une réaction sur les propos de Jean Robert, on va enchaîner sur votre guide.
Entre autres, la Loubise Leroy, elle dit qu'elle veut pas rogner parce qu'en rognant, ça fait des contre-cœurs. C'est-à-dire que la plante va refaire du végétal. Je ne sais pas si la sensibilité va jusqu'à imaginer que la pauvre plante souffre. Je sais qu'en tout cas techniquement, si on ne rogne pas, ça évite les entre-cœurs. Donc on évite de reproduire du végétal. voilà, du bois.
David Cobol, vous les propos de Jean. Jean-Bert a quand même été très tempéré. On a eu le côté positif.
Parce que j'avais Pierre Guigui à mes côtés,
oui.
Donc j'ai eu un peu peur.
Oui. Est-ce qu'il y avait du judo, Pierre Guigui, en plus?
Non, mais je suis assez d'accord avec beaucoup de propos de Jean-Robert. Il faut pas oublier que ce monsieur Steiner non seulement était anti-alcool, il était aussi raciste. Il faut pas oublier, parce que lorsque Krishnamurti est arrivé à la tête de la société de théosophie, avant qu'il fondât l'anthroposophie, il a quitté parce qu'il était indien.
Non, mais ça, David, ça vous énerve, mais quelque part,
non,
par rapport
non,
à
mais
au vin
je
et
crois qu'il faut situer, comme on cite ce monsieur en permanence, en louant quelque part, en oui, bien jamais, jamais pratiqué
les nazis. Les nazis s'intéressaient énormément à ces théories.
Je rappelle qu'il y avait un jardin, un potager biodynamique à Dachau.
Bon, oui, on boit bien du Bordeaux et Bordeaux était la ville où il y a eu beaucoup d'esclaves. Oui. Donc c'est pas, oui, c'est, oui. Donc vous voyez, c'est pas non plus.
Non, mais quand même, c'est mais il faut pas bander sur ce terme.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas rester insensible aux doses importantes de produits chimiques.
Bien sûr, bien sûr.
Évidemment, ça c'est du bon sens. Ça c'est vraiment du bon sens.
Évidemment.
Moi, je m'occupe d'un domaine également dans le sud de la Vallée du Rhône. On travaille dans cette philosophie biodynamiste. Ça quand même si c'est pas scientifique aussi précisément que les produits chimiques ou que la bio qui utilise des produits finalement bio mais des produits fabriqués, il y a quand même
une tendance,
la chance au-delà de Steiner, il y a ce qu'on appelle aussi la botanique gothéenne, c'est-à-dire de dire que finalement autour de la vigne, dans l'endroit où elle pousse, il y a plein de substances, des chardons qui repoussent des insectes,
c'est très bien,
de la valériane qui joue, de la silice qui effectivement, on va dire peut-être la peau de palimpinpin, mais ça joue aussi sur les maturités, sur les racines de sol qui sont bourrées d'aspirine, les orties qui ont aussi plein de vertus, etc., qui peuvent être utilisées. Si on peut, avec la nature, aider la nature,
c'est plutôt
pas mal pour le cycle.
Excellent sujet.
Juste une phrase, si vous me permettez. Il y a quand même dans l'évangile une phrase très importante. Quand ton âne tombe dans le puits le jour du Shabbat, tu vas le chercher. Donc quand les vignes sont très très malades, plutôt que de perdre toute sa vendange, on soigne.
Oui, il faut être très riche. Mmh. Pierre Guigui, alors ce concours en fort, on en parle, ce guide en fort aujourd'hui qui sort pour le 20e anniversaire. Joyeux anniversaire. Hein. Vous ne les faites pas quand même.
Je ne fais pas. Oh,
non,
oui,
non, vous faites beaucoup moins.
Ça fait 20 ans
alors,
que le concours existe.
C'est quoi le concept de ce concours?
C'est un concours qui est assez technique. C'est-à-dire qu'on a travaillé déjà au préalable sur les fiches de notation de dégustation et on a travaillé beaucoup sur comment évaluer un vin au préalable. Donc les fiches de notation, ce sont des fiches propres au concours en fort. On a 4 jurés par table. Et ce sont à 95% que des professionnels. C'est-à-dire que, a priori, quand on fait confiance à son caviste ou à son sommelier, là, on a de la chance, on en a 4 pour juger un vin. Donc, on a 4 personnes qui vont se mettre d'accord pour mettre une médaille ou ne pas mettre de médaille. Donc, c'est un concours assez sérieux. Enfin, c'est très technique. Ça se passe dans le silence. Il y a vraiment une très bonne ambiance ensuite, une fois qu'on partage le repas. Mais pendant le moment du concours, c'est vraiment très précis. Ouais, ça bosse.
Et donc là, les gens qui viennent donc, sont des producteurs bio, c'est ça?
Alors, les vins sont inscrits par les producteurs eux-mêmes.
Tous bio?
Tous bio, biodynamie ou nature. Mais dans la mesure où le producteur envoie un vin bio certifié, il peut être aussi en plus en biodynamie.
Bien sûr.
Il peut être aussi en nature. Dans la mesure où il a la certification, nous prenons le vin, bien évidemment.
On va rappeler la différence entre les trois. Donc biodynamie, on a bien compris avec Jean-Robert.
Biodynamie, pour être en biodynamie, il faut être en bio au préalable. Donc,
premier stade, c'est bio.
Ouais. Donc du coup, quand un vin s'inscrit au concours en fort, il est inscrit au titre du fait qu'il soit en bio.
D'accord.
Il peut être en plus en biodynamie, bien évidemment.
Et nature, c'est quoi nature?
Et nature, c'est entre à peu près 20 mg de SO2 en vinification pour les blancs. Pour les rouges, pardon, et 30 mg de SO2.
Le SO2, vous nous rappelez, Philippe Arbois, ce que c'est que le SO2?
Le SO2, c'est le soufre. Oui. Mais ma question, c'était, est-ce qu'on peut faire du vin nature sans faire du vin bio au départ?
Alors, pour être inscrit au concours, parce que c'est un concours qui est reconnu au niveau européen, il faut absolument que la personne soit en bio. Hein. Après, moi, je fais le distinguo, parce que je demande les analyses et je repère les vins qui sont sans soufre. Il y en a que 40 dans le guide. Mais beaucoup de personnes font des vins sans soufre et donc des vins d'innature et qui sont même pas en bio. Ça existe. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est intéressant que le public.
Mais le concours ne peut pas accepter un vin qui soit
dans le cadre du concours.
Dans le cadre du concours.
Mais dans le cadre plus large, bien sûr, des vins nature sur le marché qui sont pas bio au départ.
Mais, complètement.
Et cette année, donc le guide, il recense, c'est ça le best-of, c'est ça.
Avec il ressemble
les
médaillés, best-of, les médaillés, les et puis les meilleurs qui sont. Donc on a enlevé environ 30% à peu près du guide des vins. On a enlevé 30%
qui était pas au niveau,
selon
vous,
quoi. Pour moi, pas assez bon pour paraître dans un guide.
Et donc là, c'est un guide papier. L'idée, c'est de le faire chaque année, Pierre, ou alors
j'espère tout à fait. Le projet est de faire un guide chaque année.
En papier ou électronique, à voir, quoi. En tout cas, c'est
le guide. Pour l'instant, papier.
Ça existe d'autres guides qui notent en tout cas les vins bio, pas?
Oh là là, il y a le guide Carité qui lui date de, je crois, 25 ans ou 30 ans. Guide Carité qui n'est pas connu, qui est connu surtout dans le réseau bio. On le trouve dans les magasins Biocop, des choses comme ça. C'est Carité. C'était Jean-Marc Carité. Maintenant, c'est sa fille Lila qui a repris ce guide. Et là, c'est une sélection qui se fait par.
Et les grandes enseignes comme Hachette, par exemple, n'ont pas créé une sélection Hachette bio?
Alors, Hachette, de mémoire, non. Marabout, j'avais fait un guide Marabout des vins bio il y a 10 ans, à peu près 10-15 ans.
Marabout ou bio?
Il y a parfois des sections bio ou bien des mentions bio dans le guide général.
Aujourd'hui, oui, de plus en plus, ouais.
Donc, le prochain concours, c'est quand?
Mois de mai, l'année prochaine. On n'a pas encore fixé la date, mais forcément un lundi du mois de mai.
Donc là, il y a les vins, donc tous les vins à découvrir. C'est l'édition La Martinière. Combien vaut 20 euros le
20 euros à peu près. Et puis on a tout un dossier sur la bio, la biodynamie, pour expliquer ce que c'est un vin nature, pour expliquer un petit peu la différence justement entre la bio et la biodynamie. Et un dossier avec des interviews, nos parrains, dont Philippe Fabrac, que je remercie chaque année d'accepter d'être le parrain, un de nos deux parrains, avec Marc Jolivet. Et puis des portraits aussi sur certains dégustateurs qui prennent position par rapport à la bio.
À découvrir. Et les prix d'ailleurs de ces vins bio, ils vont de combien à combien? Est-ce que les prix sont indiqués dans votre
guide? Oui, les prix sont indiqués. Et puis on m'a demandé de mettre des coups de cœur. Alors moi, mettre des coups de cœur, ça me gênait par rapport au vigneron que j'en aime beaucoup, donc j'allais pas mettre des coups de cœur à certains. Donc j'ai fait les moins chers.
D'accord.
Voilà. Et les moins chers dans le palmarès, ça tourne à peu près à 8 euros, 7, 6, 7, 8 euros. Ce sont les moins chers qu'on peut trouver dans le guide.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. On va vous accueillir régulièrement dans l'émission. Tiens, pour parler une petite chronique sur les vins bio, c'est une bonne idée. Vous aimez les vins de Bordeaux ou pas, Pierre?
Oh, j'aime les vins de Bordeaux, bien sûr.
Qu'ils soient bio ou pas, quoi. Vous connaissez les Châteaux Corbin?
Corbin, oui, j'avais goûté et je sais où à peu près
ils
se trouvent.
Il est là, Jacques Rambaud. Bonjour.
Bonjour.
Les vins bio, ça vous parle ou pas?
Alors, ça me parle, oui, en fait, c'est. Moi, je suis d'une génération où beaucoup, en fait, se mettent en bio. Après, je rejoins un petit peu le commentaire précédent qui
de Jean Lapitte.
Voilà, qui dit que vraiment, ça peut, sur certaines années, être très très dur, en fait, vis-à-vis du milieu. Voilà, moi, je suis assez pragmatique dans le sens où j'ai une grosse volonté, en fait, de passer en bio. Économiquement, c'est très compliqué. Il faut aussi sauter le pas. Moi, j'ai une famille derrière moi, donc on ne peut pas non plus engager, en fait, la responsabilité d'une famille, en fait, seulement sur mes épaules. Et donc voilà, mais moi, ma volonté, elle est surtout en fait de limiter au maximum l'impact de mon entreprise, en fait, sur l'environnement. Voilà.
Très bien. Vous avez quel âge, Jacques?
Alors moi, j'ai 37 ans.
Ouais, vous êtes quatrième génération à Bordeaux, c'est ça, dans le vin?
Voilà, c'est ça. En fait, mon arrière-grand-père, en fait, a acheté le Château Corbin avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc auparavant, en fait, on a toujours été viticulteurs et laboureurs depuis les années 1547.
Et vous êtes
en fait,
situé où exactement?
On est en montagne, en fait, sur la commune de Montagne.
Montagne quoi, Montagne?
Montagne,
c'est sur la montagne.
Voilà.
Ah, Montagne, c'est très bien ça.
Montagne tout court. Voilà, ouais. Montagne tout court. Voilà, la commune de Montagne.
Ouais, ouais, parce que vous n'êtes pas perché du tout, donc tout va bien. Quoi.
Non,
alors
non,
le
non.
Domaine, vous l'avez beaucoup agrandi, Jacques. Vous êtes passé de 19 à 34 hectares.
C'est ça, oui. En fait, j'ai repris l'exploitation derrière mon père il y a une dizaine d'années, en fait, en 2005, premier millésime. Et donc il n'y avait que le Château Corbin.
D'accord.
Que voilà, je suis avant tout un technicien en fait, et je sors en fait vraiment des deux pieds dans la terre entre guillemets. Je me suis appliqué en fait pendant 5-6 ans à faire évoluer le matériel végétal en fait sur l'exploitation, et puis petit à petit, bah, la commercialisation a suivi, la qualité des vins s'en ressent forcément. Et puis voilà, donc j'ai eu une opportunité d'agrandissement en 2010 et une dernière acquisition que j'ai réalisée en 2014, voilà, toujours sur la commune de Montagne, parce que
toujours
je suis
Montagne,
voilà, très très fier de mon appellation Montagne-Saint-Émilion.
Donc vous n'avez pas de vin rouge, enfin vin rouge oui, mais vous n'avez pas de vin blanc de...
Non, je n'ai pas de vin blanc, c'est quelque chose qui me titille, mais qui, voilà, bon.
Parce que si vous pouvez créer du vin blanc, ça sera en appellation Bordeaux, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est Bordeaux ou vin de France, en fait, si on veut
singulariser en termes de cépage.
Voilà, complètement.
La distribution, voilà. Parce que là, vous produisez combien en moyenne sur aujourd'hui?
Je produis à peu près 200 000 bouteilles.
D'accord. Donc, faut les vendre, c'est beaucoup de bouteilles.
Voilà, hein, c'est ça.
Même
c'est
si
ça.
On a beaucoup de copains. Comment est organisé pour la distribution en France?
Alors,
en
France, en fait, oui, en France, export. En fait, mon distributeur historique, en fait, est la Maison Nicolas. Depuis, ça doit faire maintenant plus de 20 ans, en fait.
Oui.
Voilà, belle vitrine, en fait. Et donc, c'est mon principal marché français. pour le Château Corbin. Et puis après, je me développe de plus en plus à l'export en m'y déplaçant et en ayant des intermédiaires qui sont voilà, très, très spécialisés dans telle ou telle partie de, du globe.
Un petit commentaire sur les vins à déguster maintenant, le 2010 par exemple, comment est-ce qu'on peut le définir ?
Alors le 2010 en fait, c'est... Actuellement, je vais en 2011, hein,
2011
chez Nicolas. Mais donc 2010, en fait, pour en parler un petit peu, c'est un vin assez solaire entre guillemets et vraiment sur un petit côté chaleureux et très très agréable. Actuellement, en fait, ça peut s'ouvrir, ça peut s'attendre encore un petit peu. En fait, c'est des vins qui ont une certaine densité. Ouais. Voilà, il faut attendre encore 3-4 ans en fait pour vraiment les apprécier.
Donc une petite 2010. Dizaine d'années, vous dites. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Et 2011, comment il est
et 2011, alors en fait, 2011, c'est un millésime qui est un petit peu singulier en fait sur Bordeaux, dans le sens où il a été, il a eu une période végétative en fait assez difficile. On a récolté dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec des vins qui sont un petit peu austères et qui s'ouvrent actuellement.
Actuellement, voilà. Quoi, c'est.
Voilà. Donc, moi, personnellement, par exemple, en fait, j'ai vendu mai 2010. Après, je suis passé au 2012.
Oui.
Et je reviens actuellement, en fait, sur les ventes en 2011. Parce que véritablement, c'est maintenant qui commence à s'apprécier.
Oui, faut rappeler qu'à Montagne-Saint-Émilion, j'avais retrouvé il y a très longtemps des traces de premiers crus. Et on dit qu'à Montagne, il y a des terroirs à Montagne qui sont aussi intéressants et même parfois meilleurs que certains Saint-Émilion tout court.
À retrouver, à discuter. Un site internet, une adresse pour prendre renseignements sur le Château Corbin.
Châteaucorbin.fr. Voilà,
merci beaucoup. Ne change rien. Vos vins sont parfaits. David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Si on continuait à parler de des vendanges, avec des vendanges soit à la main, soit mécanisées.
Oui. Après la première sur les sujets qui préoccupent les vignerons, les producteurs de vin au moment des vendanges, après la maturité, comment vendanger, comment récolter ces baies qu'on espère être à maturité. Soit total, soit œnologique, soit phénologique, selon les cas. On a le choix entre ramasser les raisins à la main, couper, je dirais, parce qu'on les ramasse pas, parce que s'ils sont par terre, c'est trop tard, c'est mauvais signe, ou c'est des vendanges en verre, ou à la machine. Statistiquement, 70% des raisins à vin en France sont vendangés aujourd'hui à la machine. Et ça, on le sait peu, puisque l'imagerie populaire du vin, c'est une armée de vendangeurs qui passent, et puis on a tous participé lorsqu'on était étudiants, ou même après, on a tous fait les vendanges, je pense, autour de la table. Enfin, moi, je l'ai fait, mais, cool. Et c'est très agréable, c'est chaleureux, c'est absolument éreintant.
C'est dur physiquement, voilà,
c'est très, très dur. C'est fatigant, ça vous casse le dos, parfois vous coupez les doigts. Vous avez les doigts amochés par le jus de raisin qui coule.
La fête en fin de journée,
voilà, et puis on rencontre la belle suédoise entre les vignes. Et tout ça, c'est bien romantique. Mais quelle est la réalité de tout ça? D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que j'ai une machine à vendanger. C'est une sorte de gros tracteur enjambeur qui passe au-dessus de la vigne et qui a des petits batteurs qui tapotent les pieds de vigne et qui font tomber les raisins dans des tapis roulants qui ensuite remontent dans des conteneurs. Alors, ces machines au début n'étaient pas très sophistiquées. Elles blessaient parfois les rangs de vigne. Il faut savoir que les rangs de vigne doivent être bien alignés pour pas abîmer les pieds de vigne, parce que si vous avez un pied qui fait un écart parce qu'elle était mal plantée ou mal taillée, eh ben, elle risque d'être blessée et in fine tuée par la machine. Ces machines se sont progressivement affinées, sophistiquées. Maintenant, on a ce qu'on appelle des systèmes de tri embarqués. On peut trier le raisin dans la machine. C'est-à-dire que le raisin qui n'est pas coupé en grappe entière, et je vais y revenir parce qu'il y a des raisons techniques qui empêchent certaines appellations de vendanger à la machine, eh bien maintenant on peut trier les baies qui sont trop légères, qui sont esquintées, on enlève les feuilles avec des systèmes de soufflerie, et la machine bien conduite doucement, peut produire d'excellents résultats, surtout sur les raisins rouges, mais aussi sur les raisins blancs. 70% des raisins vendangés, c'est beaucoup. Il y a des pays où ça va à 90%, en Australie par exemple. Mais il faut deux conditions. D'abord, il faut un certain terrain. C'est-à-dire des vignes très en pente, escarpées, avec des petites terrasses étroites, c'est absolument impossible à vendanger la machine. Ensuite, il y a un autre blocage qui est un blocage d'ordre technique et légal. En Champagne, la machine à vendanger, si vous l'utilisez, vous perdez le droit à l'appellation de Champagne. Pourquoi ? Parce qu'il faut amener des grappes entières sur le pressoir, légalement en Champagne. On presse des grappes entières. La machine à couper le raisin n'a pas été inventée encore. La machine secoue les raisins et les baies tombent une à une sur le tapis. Il y a d'autres régions qui empêchent aussi l'utilisation de la machine à vendanger. C'est le cas du Beaujolais ou pour d'autres raisons techniques. Traditionnellement, au Beaujolais, on vinifie par grappe entière. Donc, mécaniquement, c'est impossible d'utiliser la machine à vendanger. Simplement, ça s'ouvre un tout petit peu parce que pour des raisons de coût, vous imaginez bien que le prix d'une bouteille de Beaujolais, c'est pas le même prix que la bouteille d'un vin de champagne. Oui. Il faut savoir que la machine à vendanger coûte entre un demi et un quart du prix selon le terrain qu'une armée de vendangeurs pour le vigneron. Donc le coût est très intéressant.
Philippe Fabrac,
est-ce que les gens sont propriétaires ou louent la machine finalement?
Alors, je vais y revenir. On peut très bien louer, on peut faire appel à un prestataire de service qui vient avec sa machine. On peut même fédérer une machine parmi plusieurs propriétaires. Si on a une très grosse propriétaire, ça vaut le coup d'acheter une machine. Donc, terrain relativement plat, pas trop humide parce que si ça s'embourbe, c'est assez catastrophique. Mais sur une vigne relativement plate comme dans le Bordelais, la machine à vendanger fonctionne extrêmement bien. Je ne sais pas si vous l'utilisez, vous.
Alors, moi, je l'utilise en fait, mais après, j'ai pris une autre direction, c'est-à-dire que j'ai gardé une machine qui ne trie pas le raisin, en fait, donc elle ne fait que vendanger.
Mais vous triez.
Par contre, voilà, j'ai un système de tri en fait qui est statique à l'entrée de mon chai, qui donc égrène. Et qui après, je trie par densimétrie.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire le poids du raisin, le poids du sucre dans le raisin.
Voilà. Chaque grain est pesé donc un par un. C'est extraordinaire.
C'est-à-dire que toutes les graines en fait tombent dans un bain. Non mais.
David Cobol, pour terminer, David.
Maintenant, en Beaujolais, c'est autorisé sur le Beaujolais simple. Maintenant, la machine à vendanger, c'est tout à fait autorisé. Alors, toute la communication des vins de qualité, c'est fait sur le vendange à la main. Et c'est vrai que si on veut pousser à l'ultime, il y a un autre cas spécifique, c'est bien sûr les tris successifs pour faire les grands liquoreux, comme à Sauternes, par exemple. Oui. On est obligé de faire à la main parce qu'une machine ne peut pas faire un tri optique de quels sont les raisins botrytisés ou pas botrytisés. Mais les raisins de la plus haute qualité et aux peaux très fragiles comme le pinot noir ne se prêtent pas très bien à la machine à vendanger parce que la peau est très fine et vous risquez une oxydation prématurée sur les raisins.
Donc parfois c'est le choix du vigneron, parfois c'est l'appellation, c'est ça?
Parfois c'est l'appellation, assez très rarement l'appellation, c'est seulement le cas de la champagne ou les vendanges par tri successifs pour les grands liquoreux. Après c'est un choix, c'est une imposition par le terrain. Impossibilité de terrain
Bagnoles,
ou bien un choix de communication et ou de qualité extrême, mais en général réservé aux vins les plus chers.
Merci beaucoup David Cobol, de fin de ce numéro 610 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public qui est délocalisé, alors samedi, émission spéciale à 13h sur le store de whisky Jack Daniels pour l'émission en direct de ce Whisky Live, et dimanche à 16h nous serons au bar à vin restaurant Nicolas à Paris pour une deuxième émission Place de la Madeleine. D'ici là, restez fidèles à BFM Business et surtout, respectez la plus grande démodération.